Marlus.
Merci Monique au 01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire. La Radio Libertaire, ça n'a pas changé, c'est toujours la radio de la Fédération Urbi. Allez bien, celle-là. Anarchiste et Urbi comme Urbi, sans sponsor ni publicité. Alors pour vos cartes de soutien, vos cartes d'auditeur, bah une seule adresse, c'est Librairie Monde Libertaire, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement. C'est ouvert du mardi au samedi à partir de 13h en semaine et le samedi en fin de matinée. On est bien sur Onde de Choc, le dernier comptoir où l'on cause, l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir, bah y compris celle de Claude Brabant, hein, qui débute sur Radio Libertaire. Hein, ça fait un bout de temps qu'on fait ça. Hein. Et Mona Huerta.
Ben, merci beaucoup de l'invitation.
Une, c'est pour la revue Empreinte, et l'autre, c'est pour Intoto numéro
7.
Et puis avec nous, on a voilà, Charlie Lousse. Voilà.
Bonjour Géant.
Tu connais la maison ?
Oui, un peu.
Tu connais aussi en cabine Monique.
Oui, Monique, je connais.
Elle a souffert d'un traumatisme depuis que tu es passé dans le trou noir. Ça a été dur de la récupérer après.
Hein. Ah ouais, d'accord.
Voilà. Bah, et puis Triboulet.
Bonjour.
Bonjour, bah, c'est un plaisir. Triboulet, c'est un plaisir. Alors le problème, il est simple, vous l'avez compris, c'est que d'habitude, on consacre l'émission pour chaque revue entièrement. Et puis là, c'est encore la faute de Monique, parce qu'elle est partie faire du ski nautique à Lacano pendant je ne sais pas combien de temps, donc je ne pouvais pas faire d'émission. Donc, non, c'est pas vrai, Monique, c'est pas vrai. Elle ne sait pas faire de ski nautique, il n'y a aucun problème. Donc, on ne va pas pouvoir traiter tout ce qui se trouve dans ces revues, on va choisir. Hein. Tout ça, c'est en perspective du marché de... Allez-y.
Le marché de la poésie. Qui ouvre le 18 juin,
c'est-à-dire mercredi
jusqu'au 22,
c'est-à-dire dimanche soir.
Voilà.
Donc vous y êtes pendant 4 jours, tout de
5.
Ben on
5
a jours. Des membres de notre revue, nous-mêmes, des amis comme vous qui passent et qui suppléent à nos absences si nous ne sommes pas là en continu.
Voilà, moi je serai là à le stand 103 et toi au stand 605. 605, d'accord. Oui. Voilà.
Alors ça se passe du... Alors,
au 22.
Alors, tout le monde le sait, c'est passé le place Saint-Sulpice. Hein. Ouais. Alors au cas où vous ne sauriez pas quoi faire, autre, vous ne voudriez pas aller au marché de la poésie, ça arrive là. Moi je vous propose un rendez-vous, ça se passe le dimanche 30 mars à 3h30 précise. Chez Monsieur Macquigny, rue de Lay, grand concours d'hommes ratiers, organisé par la Société des hommes ratiers de Saint-Nobel. De 12 rats seront détruits dans un parc avec la bouche, sans faire usage des mains, pour chaque homme ratier. Un défi de 10 francs est lancé à n'importe quel amateur qui voudrait en faire autant. Pour clôturer ce genre de fête sans précédent, un des hommes ratiers, nu jusqu'à la ceinture, rentrera dans un sac contenant 24 rats vivants. Prix d'entrée, 0,40 francs. Un brillant orchestre fera entendre pendant le concours. Alors ça, c'est extrait de... Bah, c'est dans Empreinte, c'est que tu as eu ça.
C'est la Voix du Nord. La Voix du Nord du début du
siècle.
Du siècle, du 20e siècle. Mmh. Voilà. Il y a un moment, j'ai mis le décret où ils interdisent.
Oh, donc tu as inter... Oui, bien sûr, tu as voilà. Inter...
Donc c'est paru dans la Boîte du Nord de l'époque. Et ça venait d'Angleterre.
D'accord.
Parce qu'en Angleterre, ils ont beaucoup de concours, ils font des paris. Voilà. Donc c'est venu d'Angleterre, c'était très célèbre en Angleterre, les combats de rats, hein, pas contre les rats. Et donc ils n'utilisent ni les dents, enfin non, ni les mains, ni rien, donc juste les dents.
Juste les dents.
Voilà.
Par contre, en France, jusqu'à la fin du 19e, il y avait des combats de chiens qui étaient organisés près de chez toi, rue Place du Colonel Fabien. C'est Place Combat, parce qu'il y avait, des combats de chiens.
Ah ouais.
Et notre ami Paul Verlaine venait avec ses gitons et ses minets. Il venait assister aux combats de chiens.
Et parier, sûrement.
Voilà. Donc voilà, donc si on ne sait pas quoi faire, si on ne veut pas vous voir, mesdames, on va directement par les rats, quoi.
Et dans le nord de la France, quand c'est arrivé, ça a fait scandale un peu et ça a été interdit très vite. Parce que ça a été considéré comme scandaleux, enfin, tu vois.
Oui, alors, paraît-il qu'on en parlait hors antenne, le salon de la revue, où vous allez toutes les deux, et serait sur 6 terres, c'est-à-dire que... Oui, qu'est-ce qu'ils... Non,
ben c'est je crois qu'ils ont un problème, ils ne vont plus avoir de subvention. Donc ça va leur poser des problèmes pour continuer, je suppose. Ils ont envoyé des mails à tous les adhérents de l'association, c'est... Je ne sais pas comment ça va se passer.
Mais oui, on se disait... Cette année,
ça marche encore.
Comment ?
Au mois d'octobre, il aura lieu ce
dimanche. Oui, il aura lieu, mais pour l'année d'après, c'est moins sûr.
J'ai capté un interview de Marion Maréchal-Le Pen, qui n'est jamais venue sur Radio Libertaire, j'espère, jamais sur Onde de Choc, et qui dit que cette culture, notre culture, là, il faudrait peut-être la remplacer par une culture populaire, et elle cite les santons et les crèches.
C'est formidable. Bon.
Et notre ami, eh ben, c'est le Rachida Dati, celle qui donnera peut-être plus d'argent pour le salon de la revue, va créer cette année, alors si, là, culture au camping. Alors, vous voyez à peu près ce que ça doit donner, la culture au camping. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Avant qu'on passe aux choses sérieuses, le marché de la poésie, cette année, c'est sur l'égide de Gaza. Il y a tout un phénomène.
C'est la poésie palestinienne.
C'est ça,
la
poésie palestinienne. Oui. Hein, donc là-dessus, si vous voulez plus de renseignements, il faut aller sur le site des Hommes sans épaules. Hein, Christophe Dauphin est très actif politiquement. Hein, très, très actif politiquement. Il avait déjà soutenu les Gilets jaunes. Et là, il a monté toute une chose. Et il publie aussi des poètes palestiniens.
Bien sûr, il vient
de... Donc on ne va pas s'étendre parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais il faudrait un jour prendre le temps de le faire. Quoi. Voilà. Je voudrais, puisqu'on a un ami commun tous, là, c'est Joseph. Tout le monde connaît Joseph. Joseph Nosarzewski. On raconte l'histoire, que l'histoire est belle.
Absolument, absolument.
Eh bien, Joseph, il était le kiné de belle-mère. Donc, il donnait régulièrement des séances de kiné à belle-mère. Belle-mère est devenue son amie. Enfin, ils ont été amis. Belle-mère lui a donné des œuvres qu'il a bien sûr gardées. Et un jour, quand j'étais au marché de la poésie, je vois arriver un monsieur que je ne connaissais pas à mon stand, très classe, présentant très bien. Et qui me dit, est-ce que ça vous intéresse des dessins de belle-mère, des dessins inédits de belle-mère, parce que j'en ai, et j'ai été les proposer à plein d'éditeurs du marché, personne n'en a voulu. Alors moi, bien sûr, j'ai sauté sur l'occasion et je les ai publiés dans la revue Empreinte, et c'est comme ça que j'ai donc fait la connaissance avec Joseph. Et c'est un joli personnage parce qu'il a gardé tous les souvenirs de belle-mère, tous les souvenirs d'Unicazurne, tout ce qu'on lui a donné, et 50 ans plus tard, il est là toujours. Quoi.
C'est une fidélité extraordinaire.
C'est ce que j'allais dire, il est d'une fidélité exemplaire.
C'est très beau. Oui.
Donc il a donné pour les 50 ans de la mort de belle-mère, il a donné pour In Toto.
Mais bien avant, pour le numéro précédent, le numéro 6, il nous a fait l'honneur de nous donner le dernier portrait par belle-mère d'André Breton, que nous avons publié dans le numéro 6 de notre revue, en face de l'enquête qu'on a menée sur les 100 ans du manifeste du surréalisme, dans In Toto numéro 6.
C'est une chance d'être extraordinaire, parce qu'un kiné qui tombe sur belle-mère, déjà, mais ça peut très bien ne pas marcher. Le type, il peut lui remettre les vertèbres sans aucun problème.
Bien sûr,
mais
bien sûr.
Il faut vraiment qu'il ait ce contact, cette sensibilité, quoi.
Mais surtout, c'est un monsieur charmant, très fidèle et très respectueux de belle-mère. Parce que, enfin, au moins,
ah oui, très admiratif,
très, très admiratif et très respectueux, même dans ses travaux personnels, il y a une fibre à l'égard de belle-mère qui est manifeste et qui est intéressante. Mmh.
Et il a aussi gardé tous les objets précieux du Nika Zurne.
Oui,
que Nika, tu as parlé. Avant d'aller à son dernier séjour à l'hôpital psychiatrique, elle lui a confié un paquet à belle-mère à remettre à Joseph. Et c'était tout son trésor. Alors ses ciseaux, son dictionnaire, son kaléidoscope.
Tu les as publiés dans
une revue. Je les ai publiés dans une revue. Et ça, c'est très émouvant quand même.
Mais bien sûr.
Tu t'es chargé. Ben, tu vas travailler, M. Charlie. Il ne s'agit pas de se tenir en arrière comme vous le faites là, des roupillés ici. Là. Tu t'es chargé de l'édito. On pourrait appeler ça un édito des premières pages d'Intoto avec Kader El Janabi.
Ouais, édito, c'est vrai que ça a été mis au début, mais bon, je ne sais pas si ça a les visées d'un édito. Ça ne programme une annonce, rien de particulier dans le numéro. Il a eu, disons, les faveurs des choix de Mona Huerta et d'arriver en tête de ce numéro.
Et c'est pas l'écriture automatique, c'est-à-dire que vous vous défendez à la fin en disant que c'est un exercice à quatre mains, mais c'est pas l'écriture automatique.
Non, non, pas du tout. Hein. C'est, on va dire, une espèce de fugue, plutôt, sur le monde de la fugue, où chacun reprend un petit peu à partir de l'autre ce que ça lui inspire, sans avoir, disons, une quelconque obligation de méthode poétique. De règles, de consignes à suivre. Hein,
D'ailleurs, dès 1924, Crevel se méfie de ce qu'on appelle l'écriture automatique. Hein.
Ouais.
Il le dit là, il est impossible de parler d'automatisme lorsqu'il y a écriture et si le mouvement accompli pour dessiner telle lettre révèle les mouvements les plus secrets de l'âme. Ces lettres, nous les assemblons ou nous efforçons de les dessiner suivant un ordre, un modèle appris. Les deux voix se mêlent ici, non pour se confondre, mais pour se rattraper dans un mouvement de dispersion. C'est ça ?
Oui. C'est vrai que les expériences surréalistes en la matière n'ont pas nécessairement appelé une espèce d'unanimité. Crevel, en l'occurrence, était très peu convaincu par le fait qu'il s'agissait vraiment d'automatisme de la pensée, libéré de toute contrainte et où quelque chose s'exprimait tout seul en dehors de la volonté du sujet. Donc, il y a des expériences néanmoins à tenter hein, à partir de là. L'écriture automatique a été une proposition qui a été plus ou moins suivie, mais qui ouvre un champ. C'est-à-dire comment compose-t-on à plusieurs ? C'est surtout ça qui est intéressant. Comment, lorsqu'on se met deux, trois, etc., c'est plus une subjectivité qui prend possession de tout le territoire poétique, mais qui va nécessairement le partager, et non pas au titre d'un partage ou d'une communication, etc., mais pour se laisser inspirer par l'autre. Et donc voilà, ça a un côté, stimulant dans l'écriture. On ne sait pas jusqu'où on va aller et ce qui va se passer.
Ça s'inscrit dans le temps aussi. Remettre ça 50 ans plus tard, c'est absurde. Quoi.
C'est des navettes. Ah oui. Moi, je pensais au temps
de l'écriture. Non, je te dis du temps.
du temps historique. Ouais. Évidemment. Oui, si on devait renouveler sans cesse la même chose. Je crois que, d'ailleurs, c'est bien pour ça que peut-être l'exercice a perdu son intérêt aujourd'hui. Mais il n'y a plus que les collégiens ou les lycéens qui se livrent parce qu'ils sont dans la découverte. Mmh. Mais autrement, on peut penser qu'il y a toujours une véritable, disons, situation d'écriture à plusieurs. Hein, de tel, à tel point qu'on ne peut pas discerner qui a commencé, qui a suivi, qui a repris la main, etc. Et voilà, donc c'est une expérience poétique qui est très, très intéressante, c'est assez amusant, rafraîchissant, ça permet de mettre un peu d'ego à distance, disons, et voilà.
Mais très vite, très vite fait, Charles, je disais un jour à ce micro que l'écriture automatique est valable s'il y a une mémoire derrière les mots. C'est-à-dire, on peut en faire tous les deux, là, tout de suite. Là, je te dis, le camembert à musique, je sais pas, Antoine la pastorale, c'est très gentil, mais j'irai pas très loin avec ça.
Oui.
Voilà. Oui. C'est-à-dire que le langage a une mémoire.
Oui.
Tu vois ce que je veux dire, c'est ça, très rapidement.
Oui, bien sûr. On peut tomber sur des images heureuses, et puis sur d'autres trucs un peu bancals, et qu'on aurait bien aimé biffer après coup. Mais si on respecte précisément l'esprit ou le cadre théorique de l'écriture automatique, il ne faut rien modifier, évidemment. Et là, bon, ben, alors que néanmoins, comme le dit Crevel, hein, l'écriture fut-elle dite automatique, elle est quelque part travaillée.
Non, il n'est pour cela que de regarder le manuscrit breton sur l'écriture automatique. Abdoulkader El-Zanabi a publié une page de breton issue de cette période. C'est absolument surprenant de voir toutes les biffures, tous les rajouts dans les marges, etc. Alors, donc, l'automatisme, s'il existe dans les corrections, c'est surprenant.
Il faut dire aussi que ces gens-là, ça m'a toujours surpris, ont un art de la syntaxe. Ouais. Qui est remarquable, parce que qui écrit un français parfait, c'est André Breton. Hein.
Bien sûr.
Hein, Guy Chambellan disait, c'était pas un romantique, il écrivait Grand Siècle. Ouais. Et si on prend certaines métaphores de Breton, etc., on est dans la très haute écriture.
Oui, et puis le Breton, il parlait comme il écrivait.
Hein. Bien sûr.
Quand on l'entend, des fois, on a l'impression vraiment que c'est...
Mais Robert Desnos, dans La Liberté ou l'Amour, en 27, il part pendant 15 pages ou 20 pages comme ça, mais la syntaxe est parfaite, c'est-à-dire que son langage est dans lui, le langage a une mémoire, quoi.
Oui, ouais, bien sûr.
Voilà.
Bien
sûr. On va écouter un peu de musique, et aussi, j'ai retrouvé... Mais on n'est plus à la cano, Monique, s'il te plaît. Merci.
The very thought of you and I forget to do the very ordinary things that everyone ought to do. I am living in a kind of daydream. I'm happy as a queen and foolish, though it may seem to me that everything, the mere idea of you. The longing here for you, you will never know how slow the moments go until
Alors, sur Radio Libertaire, au 01 43 71 89, un petit correctif. Monique n'était pas à la cano, mais bel et bien à Lourdes, comme chaque année. Alors, un jour, une fillette vit un rustre endormi sur sa couche. Il était porteur d'un gros vite, la friponne y porte à la bouche, on ne peut guère l'excuser. Pourtant, que faut-il qu'on en dise ? Mes amis, doit-on l'accuser de luxure ou de gourmandise ?
C'est merveilleux.
Ça, c'est merveilleux. Alors... Bon, mon cher enfant, enculons-nous, nous serons heureux, je l'espère. Un tendre fils peut enculer son père. Des enculeurs, le plaisir est bien doux. Si la tendresse conjugale dans un con place ses faveurs, tu goûteras dans mon cul les douceurs de la piété filiale.
Ah, c'est pas c'est beau, bon,
je sais que tu as eu ça.
J'ai eu ça.
Alors, c'est le panier aux ordures d'Armand Bouffé, c'est ça?
Oui, voilà, c'est un chansonnier du caveau, je crois, non? C'est ça?
C'est ça. C'est ça. Alors, c'est très marrant parce qu'il y a. C'est, bon, on va dire c'est cru, hein?
Mais c'est bien.
Je dis, sans doute pouvait-on le dire à cette période, aujourd'hui, ce serait un peu différent. Ouais.
Oui, tu vois sur les antennes ça.
On l'a dit.
Oui. Et par exemple, t'as une espèce de poésie, parce qu'il dit à un moment donné, alors vite fait, l'amour me fournit un moyen de payer ton ardeur extrême. Mon cul d'Amis se porte bien et tout plaisir chez l'objet qu'on aime. Prenez donc mon cul d'Amis le prix, ce qu'il fit, chacun le devine. Depuis cet heureux jour, on dit que glycère est la cristalline. Profitez de cette leçon, jeune fille simple et novice, pour le vif, le ciel fit le con. En dépit de la chopisse, ne souffrez donc pas qu'un amant, dans votre cul loge sapine, on peut vivre fort décemment sans attraper la cristalline. Et ce mot cristalline.
C'est joli, hein?
Ah, c'est beau.
C'est une maladie.
Oui, mais c'est beau. Non, c'est la chopisse, mais c'est. Il y a quelque chose derrière. Oui, c'est.
Aujourd'hui, c'est une marque d'eau minérale.
Oui, aujourd'hui, c'est une marque d'eau minérale, tout à fait.
Monsieur Triboulet, ça vous intéresse de nous dire quelque chose ou pas? Avant qu'on parle un petit peu avec Monsieur Charles, puisqu'il a travaillé sur quelque chose là.
Comme vous voulez.
Vas-y.
Dans le même registre.
Si tu veux.
Parce qu'il y a d'autres choses.
Si tu veux, vas-y.
Dans ce registre-là.
Ben, il vaut peut-être mieux varier.
Ça s'appelle le doute de l'arétin. Juché sur une novice, un vieux capucin en rut lui fracassa la matrice et la pauvrette en mourut. Faudra-t-il pour homicide faire punir le frappard? Oui, vraiment, si l'on décide que la pine est un poignard.
Ça, c'est magnifique. Hein. Dans ce numéro d'empreinte, je t'avais demandé de regarder quelque chose, Charles. Non, je vais t'expliquer. Mesdames, il y a quelque chose, c'est le peintre Natto. Qui continue à faire scandale. Donc, Charles.
Écoute, j'ai un peu découvert, hein, puisque tu m'as passé le numéro d'empreinte, que je trouve d'ailleurs globalement très intéressant. Parce qu'il y a vraiment la recherche de choses qui doivent à chaque fois provoquer un peu le lecteur. Et c'est à lui de se faire une idée en dernier lieu. Là, pour ce happening du peintre Natto, il y a de quoi faire dans ce registre. Alors, c'est accompagné d'un texte qui défie la syntaxe aujourd'hui.
C'est un texte de Natto lui-même qui défie la syntaxe.
Donc, il est hors de question ni de résumer ni d'essayer de donner des extraits, mais où il y a certaines formules qui d'un seul coup surgissent et qui sont intéressants, notamment autour de, puisque c'est en, je pense, directement en rapport avec ce happening, il parle du vivant créatif de l'obscénité qui s'en trouve ainsi devenir critique, confronté à la société où je m'expose sans issue. Il dit vraiment son projet pour plusieurs raisons et qui donne justement à critique, puisqu'il parle de obscénité critique. Voilà. Et on peut être tout à fait critique à l'égard de cette formule aussi. Et critique veut dire aussi peut-être déboucher sur une approbation.
C'est l'équivalent de paranoïa critique.
Peut-être.
Sur Happening, Charles, c'est avec des dames qui sont assez âgées. Hein.
On a des quinquas, des sextas, c'est plutôt des dames et des messieurs d'ailleurs d'âge mûr qui évoluent autour d'un piano ou sur un piano, et donc un instrument tactile, hein, un instrument musical qui émet des sons au contact, et donc on suppose que ce côté très nécessairement physique.
Ça te choque, c'est cher, parce que je vais te dire pourquoi je t'ai demandé de le faire, parce que t'as une conscience claire et tu es un prude. J'ai monté à des des jeunes femmes, c'est un peu nigne. Et soit certaines ont ricané, soit on dit ça, bon, non, ça se fait pas. Et moi, je me souviens à l'usine où il avait fait une performance, certains étaient sortis.
Oui. Mal à l'aise.
Non, moi, ça me choque pas du tout. Et je pense que dans Obscénité critique, d'ailleurs, il reprend le terme d'obscénité parce qu'il le reçoit d'une certaine façon de certains spectateurs qui peuvent juger ça, effectivement, obscène. Et donc, il dit, après tout, pourquoi pas, l'obscénité peut être aussi relevée, disons, d'une approche critique. Mmh. Et d'autant plus que c'est les modèles qui évoluent autour de ce piano n'ont rien d'obscène. Ils ont, si ce n'est qu'ils sont nus et que effectivement ce ne sont pas des corps des faibles ou de très belles jeunes filles très jeunes, etc., mais de gens d'un âge relatif assez peut-être relativement mûr, en tout cas, va-t-on dire. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir choisi pour ce happening la nudité. Alors, une nudité qui n'a rien d'obscène, parce que les positions, les trucs, il n'y a rien, vraiment rien d'obscène. Ils se présentent nus, dans le plus simple appareil, dira-t-on. Et donc, c'est, je pense qu'au-delà de ce qu'il dit dans les textes qu'il propose, ce qui est intéressant, c'est la notion d'exposition, parce que d'une certaine façon, ce happening montre qu'il y a deux niveaux d'exposition qui n'en font qu'une. D'une part, il est peintre, donc il sait qu'une création ne peut venir à la connaissance que par l'exposition, à la connaissance d'un public, n'est-ce pas ? Duchamp disait, c'est le regardeur qui fait l'œuvre, donc la position du public est fondamentale. Et donc, premier niveau d'exposition, hein, qui donne statut à l'œuvre, et en même temps, ce qui, dans le terme même d'exposition, signifie risque, prise de risque, c'est exposer sa vie, n'est-ce pas, s'exposer à un risque. Et là, ces personnes, ces sujets, ces modèles qui interviennent devant l'objectif qui va les fixer sur la pellicule, enfin sur la pellicule qui va les photographier, eh bien, s'exposent doublement pour cela. Et je pense que cette réflexion sur la nature de l'œuvre qui est donné, qui est exposé avec ces deux sens que j'ai essayé d'évoquer, me semble très très fort, très très, ouais, très puissant.
C'est parfait. Tu vois, t'as eu raison de te plonger dedans. Mona, oui, toi qui es la cheville ouvrière de In Toto, hein. Donc il y a un dossier. Non, c'est pas du violon. C'est-à-dire qu'il faut le faire. Il faut le faire pour l'ouvrière. Ça veut dire que t'es dans la matière. Donc il y a un dossier. Il y a deux dossiers. Il y a un dossier qui dérive parce qu'il y a un dossier sur les rébus, c'est ça?
Oui, il y a un dossier. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est on a parlé de Joseph tout à l'heure. Du début à la fin de cette revue, il y a des résonances autour de la prestation de Joseph pour les 50 ans du décès de belle-mère. Ce que l'on publie de Joseph, c'est pas un hommage à proprement parler, une évocation. Or, de bout en bout du numéro 7, belle-mère résonne. D'abord, dans la couverture. La couverture du numéro 7, choisit de publier un dessin de belle-mère inédit, c'est le chapeau main. L'épreuve que l'on a reproduite dans le numéro, c'est une collection privée. Et donc, ça résonne puissamment pour belle-mère. Il y a aussi le problème de la mémoire. La phrase qui a été écrite sous le dessin de belle-mère pour ce numéro-là, les doigts de la mémoire tressent les cheveux de l'oubli. Donc ça, déjà, ça résonne et ça donne une couleur pour le numéro en général. En quatrième de couverture, il y a une projection sur le temps mis à nu pour bien montrer que le temps est toujours là, à la fois pour la mémoire, mais aussi pour régénérer, pour donner à lire, pour donner à créer. Voilà, ça c'est l'aspect général du numéro. Et après, bon, si on regarde les choses qui résonnent dans les articles, etc., du début à la fin, on trouve des résonances qui sont tout à fait... pour nous, on a trouvé ces résonances-là, la relecture.
Après, c'est ça.
Oui, après. On n'a pas fait exprès, c'est après.
Donc, on dérive du rébus à la poésie sonore.
Oui.
Moi, je vais te dire ce qui m'a scandalisé, oui. Ce qui m'a scandalisé tout de suite. C'est-à-dire qu'on ne peut, comment peut-on faire un dossier poésie sonore sans passer par Gerasim Louka. Gerasim Louka, c'est quand même celui qui vient du surréalisme. Au départ, il vient du surréalisme, hein, un poète roumain, il y a du surréalisme. Il y a un côté très érotique, très Lautréamont, etc. Et à un moment donné, hop, sa voix, et quelle voix. Voilà. Et comment des gens, je ne connais pas ces gens qui ont fait ce dossier-là, voilà. J'en cache que moi là-dedans. Hein.
Oui,
mais
oui,
comment on peut ne pas passer par Louka, quoi. C'est le béaba, quoi. Et deuxièmement, il y a quelque chose aussi, j'ai trouvé simplement une allusion au mouvement Dada. Alors tout le monde sait que le mouvement Dada, notre ami... Là, j'ai avoir des problèmes de diction, Kurt Schwister, c'est bien.
Oui, oui,
c'est
oui.
Bien. Et, on sait qu'il a fait une sonate vocale, La nuit des origines, ou La nuit préhistorique, selon la traduction. C'est absolument remarquable. Et comment ces gens ne peuvent pas passer par là?
Puis, il y a aussi Artaud.
Artaud.
Qui, lui aussi, qui pensait que le théâtre bavard était à condamner, et donc il... pour en finir avec le jugement de Dieu, qui est un classique de la poésie hurlée,
bien sûr.
Hurlante.
En parlant d'Artaud, bah oui, là, on trouve Virginie Di Ricci.
Oui.
Alors ça, c'est qui alors j'ai vu la date, c'est en décembre 2021 au théâtre de l'Atalante à Paris. Elle avait joué le débat du cœur. Moi, j'aime pas le mot jouer avec elle parce que c'était tellement incarné. Voilà, c'était un voyage. Et Colette Thomas, c'était cette jeune fille virginale qui a entretenu avec Antonin Artaud une correspondance. Mais c'est pas seulement une correspondance écrite. C'est une correspondance de chair, de nerfs, etc. Hein. Voilà. Et elle dit cette phrase, à un moment donné, dans l'éclair, elle a fait césure avec l'ancien dire, la poésie, la nouvelle génération discrépante ne s'en est pas remise. Alors si vous ne savez pas ce que ça veut dire discrépante, je viens vous le dire aussi, ça veut dire discordante, une chose comme ça. Et c'est vrai que pour venir à Artaud, lorsqu'on a Artaud sur son chemin, pour s'en remettre, c'est très difficile.
Bien évidemment. Donc, Colette Thomas était comédienne, certes, mais elle a surtout écrit un livre, seul et unique, je crois, qui s'appelle « Le testament de la fille morte ». Et donc... elle a côtoyé le théâtre et elle a côtoyé Artaud d'abord à travers l'œuvre d'Artaud là, sur le théâtre.
Le théâtre est sans double.
Oui, le théâtre est sans double. Et après, bon, voilà, la compagnie permanente a fini par l'entraîner elle aussi vers la maladie psychiatrique.
Mais lorsqu'on regarde ce numéro de Dean Toto avec ce dossier lettriste, on s'aperçoit que les lettristes n'ont rien à voir avec Artaud. Je m'excuse.
Non.
Il y a un côté intellectuel chez les lettristes, tandis qu'Artaud, c'est vraiment le côté tripial. Et sûrement le grand poète, c'est sûrement Artaud. Et c'est pas ces gens qui auraient contenté de faire de la poésie. Non, je sais pas ce que tu en penses, Charles, non?
Mais
bon, oui, bon,
c'est difficile de...
Il est sûr qu'Artaud, il s'était pas doté d'un programme. Il se lançait en poésie, et effectivement, là, pour le coup, il y a chez Artaud cette obscénité critique dont on parlait tout à l'heure, qui n'a
tout
rien...
Tout écriturait de la merde.
Voilà, c'est ça, absolument. Ce côté très cru, mais qui en même temps est un engagement très 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 fort. Hein. Il les laisse. Quelque chose de surdépense. Hein, il dépense au-delà même de la poésie quelque chose qui relève de son corps. Hein. C'est chez les lettristes, on est plus dans un programme ou un projet beaucoup plus intellectuel. C'est pas étonnant qu'il vienne faire le passage après vers le situationnisme.
On dirait beaucoup plus littéraire aussi. C'est littéraire.
Oui, oui. C'est oui, et oui, c'est
parfois
ça.
Parfois littéral.
Bien sûr. Littéral. Oui, bien sûr.
Et c'est une expérience qui aussi, en elle-même, marque quelque chose. Hein. Il y a une le XXe siècle a été très très riche en, disons, en volonté de réinventer sans cesse, et donc avec des ruptures qui ont voulu d'une certaine façon se formaliser.
Est-ce que c'est pas parce que la première expérience surréaliste et dadaïste est tellement forte?
Oui.
Qu'on a une grosse pagaille, un gros problème après, quoi.
Oui. Les avant-gardes toujours... sont un peu à bout de souffle.
Mais et c'est toujours les queues de comète. Oui.
Avant qu'on écoute un peu de musique, le lettriste, c'est Isidore Isou, c'est Maurice Lemaître, et j'ai reçu à ce micro Maurice Lemaître. Et c'est Jean Rollin, le cinéaste de Fantastique, qui me l'avait amené, et puis il me dit, bon, on va faire l'émission, mais je vous préviens qu'il me dit, il est sourd. Je dis, on va bien se débrouiller. Puis il y avait, c'était pareil, une tablée, comme ça, on était 6 ou 7, et on met Maurice Lemaître là-bas. Il commence à parler, il n'arrive pas à s'arrêter, il y en a un qui sort, 5 minutes après, il y en a un autre qui sort, un quart d'heure, tout le monde est sorti, on a été fumé dehors, on est parti en train de discuter dans le couloir, on est revenu une demi-heure pour aller après, il parlait toujours, il ne s'était pas aperçu qu'on était parti.
il était aussi aveugle.
Je ne sais pas, il était parti dans son voyage. On écoute un peu de musique et puis on redescend dans tout ça. Et M. Triblet, vous allez travailler là maintenant, vous allez trouver vos textes, les textes de Maurice Magrin. D'ailleurs, vous les avez, d'accord. Bon, ça va.
Something in a way she moves attracts me like no other lover. Something in the way that she moves me. I don't want to live right now. Don't want to live for now. Oh, better believe me now. You're asking me, will my love grow? I don't know. You stick around.
J'ai eu une observation déjà par Monique quand je me suis levé, parce que paraît-il, j'ai parlé lorsque mes micros n'étaient pas éteints. N'est-ce pas? Bon, d'accord. Donc je ne veux pas que ça arrive. Alors, on va, parce que nous, on se connaît suffisamment tous les deux, on peut se dire des choses. Hein. Donc, tu as récupéré cet écrivain que je ne connaissais pas du tout, Maurice Magrin.
C'est pas un inconnu. Hein.
C'est pas un inconnu, mais voilà. Tu veux dire que je suis pas cultivé, je te laisse.
Oui.
La conquête des femmes, la conquête des femmes. Alors, on a une petite discussion parce que on est en quelle année là? On est exactement en
1920 ou 30, voilà. Tu vois.
Donc la morale, la mentalité, la censure n'est plus la même, etc. Effectivement, il y a un texte qui s'appelle les méthodes du viol.
Ah oui, que j'adore moi.
Toi, tu adores, et je t'ai dit, moi, j'ai pas envie. C'est pour entrer dans les féministes, etc.
Ah non, je t'ai pas dit ça. Je t'ai dit, tu as peur des féministes.
Oui, c'est ça. J'ai envie de sortir entier du studio.
Mais en fait, c'est pas un texte qui est pour le viol. C'est pas un éloge du viol. Il ridiculise le violeur, ce texte. Et dans ce sens-là, il est très intéressant. Et il est très féministe. Parce que, au lieu que le violeur soit une sorte de Superman, presque sacré, tu vois, auquel on ne peut pas résister et qui est tellement un mythe, presque, eh bien là, le violeur, il n'y arrive pas, il est ridicule.
D'accord. Tu veux essayer, quand même, méthode du viol? Je t'ai prêt ton propre jeu, parce que quand on s'est eu au téléphone, je t'ai dit que ça avait besoin d'un petit discours avant, et tu m'as dit non, bah, tu viens de le faire, quoi, bravo.
Ah, voilà.
Merci. méthode du viol, voilà.
Donc je dis.
Oui, méthode du viol, tu voulais.
Tu veux que je fasse avec toi?
Hein?
Tu veux? Non, il est
non,
court.
Non, je vais le faire. Il est court. On voit dans les journaux que des êtres instinctifs et grossiers renversent des femmes sur des chemins déserts et parfois les mettent à mort. Ces tentatives criminelles inspirent évidemment l'horreur. Mais comment se défendre d'une certaine admiration en songeant que ces personnages aux nerfs peu délicats accomplissent l'amour en quelques secondes, sans les défaillances habituelles aux imaginatifs? Jadis, j'entendais un certain R qui, depuis 3 ans, était aimé follement par une toute jeune personne au visage ingénu, dire qu'il n'avait obtenu cet amour que parce qu'il avait pris de force cette maîtresse. Il racontait qu'il l'avait fait venir dans sa chambre d'une façon d'autant plus aisée qu'il avait été jusqu'alors poli et respectueux à son égard. Il s'était alors jeté brusquement sur elle. Une lutte s'était engagée qui ne s'était terminée qu'au bout d'une heure de temps par sa victoire que je n'ai jamais pu m'expliquer. Il y a en effet des femmes qui aiment la sensation de voir un être charmant, raisonnable et doux se transformer brusquement en un inconscient sauvage qui les brutalise. Mais l'on ne peut pas jouer le personnage du sauvage. Il faut l'être réellement. Qu'arriverait-il et de quelle confusion ne serait-on pas saisi si l'on faisait tous les gestes du viol et si à la dernière minute, au moment où la victime se résigne avec curiosité, on n'avait ni l'autorité ni l'absence d'émotions indispensables? Ces battements de cœur, ces tremblements, cette fébrilité qu'occasionne une étrange faiblesse peuvent être à la rigueur excusés par une femme qui a l'habitude de l'amour, si on les met sur le compte d'un excès de désir, d'une immense tendresse. Ils couvriront d'un juste ridicule celui qui aura voulu se parer du prestige et de la brutalité et qui n'aura pu en donner les bienfaits.
Voilà. Oui. Oui, ça passe.
Ça passe, mais bon, je me dis toujours, c'est en 1920, c'est bon.
Oui, voilà. Oui. Voilà. Mais ça, alors là, c'est vite fait. J'ai dans mes relations un musicien qui est Jean-Claude Eloye, qui a fait partie du groupe d'Arbstadt avec Boulez, etc., et qui a écrit ses mémoires. Qui a écrit ses mémoires, et il a 80 et quelques années, et on a lu ces mémoires, et effectivement, on a trouvé ça, un, machiste, et deuxièmement, avec des rapports homophobes. Et là, on s'est posé la question, on disait, qu'est-ce qu'on fait? C'est un témoignage aussi de ce qu'était un homme de 20 ans dans les années... C'est-à-dire, oui, effectivement, ils sont le langage de leur époque.
Oui, bien sûr.
On ne peut pas le moraliser. Hein. Et on va voir, alors là, je vais me faire bien voir ce qu'a écrit André Breton sur l'homosexualité. Mm-hmm. Il a été très très bas. Hein.
Mais il n'y a pas que lui, les métagraphistes aussi, là, dans le genre.
Oui, bien sûr.
Et on parlait tout à l'heure de Belle-Mère et des gravures qu'il a faites pour l'ouvrage de bataille qui est Madame Edouarda, qui ressemble étrangement à un ouvrage qui vient de paraître. Et Breton a été dans une querelle justement pour ces aspects, disons, de monstration de certains côtés pervers ou contre bataille. Ils se sont plus ou moins écharpés autour de ces questions de bienséance. Hein. Enfin, bienséance, j'exagère un peu, mais pas loin.
De toute façon, dans ce numéro de In Toto, on rend hommage au troisième convoi, qui est une revue qui est apparue de 45 à 50. Et on trouve Michel Fardoulis-Lagrange, et on trouve Georges Bataille. Il y a incompatibilité entre Breton et Bataille. Il y a un côté matière, un côté obscène chez Bataille qu'on trouve pas chez Breton. Ça, c'est sûr, il y a un refus chez Breton, faut le dire.
Les surréalistes, en général, par rapport au sexe, ils sont très prudes. Hein,
c'est sûr,
très...
bien sûr.
On peut pas dire qu'ils soient très ouverts. Hein.
Ils glorifient la femme, mais...
Oui, voilà. Ils ont très peur du sexe.
Oui, bien sûr. Sans doute. J'imagine, mais bon... Voilà.
Mon ami Gladiator, il a fait une conférence pour le centième anniversaire de la naissance de Breton. C'est la plus belle des conférences, quoi, la plus hilarante. Et à un moment donné, il aborde plusieurs points. Il dit, maintenant, je vais aborder le point André Breton et l'homosexualité. Et puis, il dit, je ne sais pas comment je vais m'en tirer. Et effectivement, il s'en tire absolument pas. Voilà. Il s'en tire absolument. Le temps tourne, on va bien y arriver. Tu veux nous, monsieur Consot, Maurice Magre, là, dire un peu qui il était pendant Maurice Magre est né à Toulouse en 80. Oui, la comparaison. Oui, c'est bien celui-là. Voilà.
Après 2 mois de séparation, je retrouve ma maîtresse à la gare où elle est venue m'attendre. Je mets ma tête à la portière pour la voir de loin, elle est là. Nous faisons tous les deux le même geste de joie conventionnelle. En réalité, nous nous trouvons l'un et l'autre changés, moins beaux que nous le pensions. Nous sommes déçus. À vivre à côté de quelqu'un, on s'efforce de le parer de 1000 qualités et on y parvient. Si l'on se quitte un peu et si l'on se retrouve, on se voit tel qu'on est, parce qu'on a oublié le mensonge de son imagination. Qui des deux prendra l'initiative de tomber dans les bras de l'autre? Il faut dissimuler mon impression et j'esquisse un tendre geste. Elle me tend simplement la main. Je la lui serre. Elle se reprend à son tour, mais au moment où je soulève de terre ma valise, renonçant à tout baiser. Alors je me dis, pour m'excuser, que rien n'est plus factice que ces étreintes sur les quais de gare, qu'il ne convient pas de donner sa tendresse en spectacle à des étrangers, que les véritables marques de sympathie sont au fond du cœur. Près de moi, cependant, des êtres spontanés se sont embrassés en criant et en gesticulant. Dissimulaient-ils? Ils n'en avaient pas l'air. Ce sont des natures vulgaires, pensais-je. J'attends mes bagages. Il y a à côté de moi une femme bien plus jolie que ma maîtresse. Ses cheveux, au lieu d'être teints en blond, sont d'une couleur naturelle. Elle n'a pas sur le cou cet imperceptible pli si visible pour moi que je remarque avec tristesse sur le cou de Paulette. Comme elle s'habille avec goût. Elle a une taille élancée et la couleur des yeux qui me plaît. Il me semble qu'elle a jeté un coup d'œil ironique sur le chapeau de ma maîtresse. Il est bizarre et compliqué. Il vient sans doute de quelque toute petite modiste. C'est le plus beau chapeau de Paulette, j'en suis sûr. Et elle l'a mis pour venir m'attendre à la gare et frapper ainsi un grand coup sur mon imagination. Comme cette toque très simple dans un cercle de cheveux blonds est préférable. J'appelle un employé avec toute l'autorité dont je suis capable. La très jolie femme est de plus en plus dédaigneuse. Et quand on apporte ma malle, Je ne sais pas si je suis plus honteux de son aspect minable de mâle de famille, à côté de l'élégante malle de cuir de l'étrangère, ou du chapeau de mon ami auprès de cette toque très simple. La comparaison suscite le désir, et nous sommes d'autant plus forts que nous désirons beaucoup.
Bien,
ouais,
c'est bien. Non, c'est très bien. Merci, Triboulet, c'est très bien. Tu pourras revenir, mais à l'heure.
Hein?
Tu pourras revenir, mais à l'heure. Ça commence à 14h et non pas 14h30, l'émission. Je tiens à te le dire. C'est bien, je ne sais pas si c'est Charles qui s'en est chargé d'avoir noté le surréalisme et l'antifascisme.
Non, ça c'est Kader.
C'est Kader.
C'est Abdou.
Pour une fois qu'il fait les choses bien, je tiens à lui dire, s'il nous écoute. D'accord. Oui, ça c'est important. On n'est pas dans une tour d'ivoire. Hein, il y a plein de choses. J'ai commencé par Dauphin, par Christophe Dauphin et ce qu'il fait par rapport à la Palestine.
Oui.
Ça me paraît évident, non? Non?
Mais voilà. Bien entendu.
Donc il faut bien. Et là, à un moment donné, si c'est Kader qui l'a écrit, on dit si le surréalisme a précipité dans la mêlée l'art et l'écriture de son temps, les engagements politiques qui l'ont accompagné sont parfois moins connus. Il faut dire qu'il y a tout un côté qui est arrivé sur le surréalisme, mystique, artistique, etc. Mais il y a un côté politique. Hein,
bien entendu. Hein. Et donc, l'avantage de ce catalogue qui est présenté ici, qui est le fruit d'une exposition qui a eu lieu cette année à Munich, porte justement sur surréalisme et fascisme. Et donc, il y a deux catalogues, mais énormes, presque 800 pages. Chacun, un en anglais, qui a l'avantage d'être plus passeur que l'autre en langue allemande. Mais les textes à l'intérieur, qui sont recensés, qui sont présentés, qui émergent de la collection que les documentalistes et commissaires d'exposition ont fait, les choses des surréalistes français sont en français. Il y a d'autres textes en anglais, il y a d'autres textes en allemand, il y a les textes de Kader en arabe, et en anglais aussi, qui par une chance inouïe, je ne sais pas comment ces gens nous connaissent, mais ils le connaissent en tout cas, et donc ils le publient dans cet énorme catalogue. C'est parce que nous l'avons reçu que nous l'avons recensé.
Et ça, il faut le rappeler. Il faut rappeler aussi que les surréalistes ont pris position durant la guerre d'Algérie, par exemple.
Mais la guerre d'Algérie, pour la Hongrie, pour la Tchécoslovaquie,
bien sûr, ça faut bien le dire aussi.
Dans les années 30,
tu as connu Luca, toi.
Oui.
C'est quelqu'un qui a fui qui a fui le fascisme en Roumanie.
Oui, c'est ça.
Hein? Voilà.
Et en plus, c'était juif, donc.
Voilà, ça. Ah ben oui, ça arrangeait pas les choses. Quelle idée il a eu à l'époque. Ça
il a été racheté par Israël.
C'est-à-dire?
Il a été racheté à la Roumanie par Israël en tant que juif.
C'est ça?
Ça, je savais pas du tout.
Voilà, le prix, je ne sais pas. Je peux pas le dire.
C'est-à-dire que qui c'est, ils l'ont racheté comme personnage.
Ils l'ont racheté comme personne en tant que juif. On rachetait les juifs à la Roumanie.
Ah bon? Tu savais ça?
Non, pas du tout. À la Russie aussi, on rachetait.
Ah ouais. Ouais. Il y avait.
Et alors après, le juif était obligé de passer. Non, mais il y avait un chèque. Et le juif était obligé d'aller en Israël. Et c'est ce qu'appelle Luca. Il a été en Israël et il est venu en France après.
Voilà. Il y en a d'autres.
Et il a fallu, pour qu'il quitte Israël et qu'il aille en France, qu'il ait la permission, il a fallu qu'il rembourse. Qu'il rembourse le prix que Israël avait payé pour le racheter. Et c'est un ami qui lui a prêté de l'argent.
Tu arrives à comprendre que ces gens-là, jusqu'à la fin de leur vie, ils ont été traumatisés par ça.
Ah ben, il y a de quoi.
On peut estimer que le fait qu'il rembourse, voilà, il est libéré, il ne doit plus rien à personne.
Non, je ne dis pas que c'est mal, mais il est que quand même...
Non, mais je le vois, c'est pas ni bien ni mal. Je le vois simplement d'une manière, d'une proposition pour qu'il se libère de toute obligation, de toute dette à l'égard de quiconque. Il redevient fondamentalement libre. Ça coûte 1000 dollars, vous voilà 1000 dollars.
Oui, d'accord,
il y a un cynisme.
D'un côté, esclavage quand même.
Mais
tu payes l'esclave, tu rachètes le juif, c'est pas possible ça.
Oui, mais là, je pense que c'était, il y avait plus d'humour que le fait.
Je crois pas du tout qu'il y avait d'humour.
Non.
Et en plus, ils lui ont enlevé sa nationalité. Donc Israël rachetait, mais il devenait israélien. Voilà.
Oui, oui.
Et il n'était plus roumain.
Ah, le business, qu'est-ce que c'est, hein?
Mona, donc tu as travaillé, tu as eu ce dossier sur les rébus.
Oui.
Ça te disait quelque chose avant les rébus, ou tu prenais ça comme une chose...
Non, mais moi j'avais des souvenirs de très des exercices à l'école ou enfantin ou des choses comme ça, mais un intérêt systématique pour le rébus, bon, ce dossier nous a entraînés là-dedans. C'est, donc, on a, quand on nous a présenté certaines choses, on n'était pas, ça nous a semblé qu'il y avait des trous. Alors, on a, par exemple, introduit l'intérêt de Rabelais pour ces jeux de langue dans Gargantua, mais il moquait fondamentalement la pratique qu'il y avait au XVIe siècle sur la relecture des hiéroglyphes. Alors que Rabelais lui-même pensait que c'est dans le contenu de la langue, dans l'intérêt du savoir, qu'il fallait développer les choses et non pas dans des dessins figés. Et donc on a juste fait une petite page juste pour rappeler ça. Aussi pour rappeler Léonard de Vinci qui lui était un fanatique de la chose parce que il faisait ses rébus à travers un miroir, c'est une écriture inversée. On a donné l'occasion d'en montrer quelques-uns. Bon, quand si on ne regarde pas avec un miroir, il faut vous dire que c'est des fois très, très, très peu lisible. Mais bon, il y a des amateurs quand même. Et puis, dans les enseignes et dans les pratiques du vieux français, c'était courant. Bon. Et Rabelais se moquait beaucoup de ces pratiques-là qui étaient figées dans la pierre, dans le savoir, etc. Mais les rébus ont évolué. Et notamment, on s'arrête surtout au XXe siècle, au XIXe siècle, avec le développement de la presse, bien évidemment, ce genre d'exercice se développe. Mais et il est repris au XXe siècle. Pourquoi ? Notamment par les surréalistes, parce que Breton et les surréalistes ne partent pas du rébus en soi, mais partent du fait que, selon Sigmund Freud, qui reprennent à leur propos, le rêve est un rébus. Et donc, évidemment, sur ce registre, vous pouvez imaginer ce que les surréalistes peuvent en faire, comme jeu de langage, comme jeu de l'inconscient, comme le jeu GEU et le jeu JE.
Mais on revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec Charles. Tout ça, ça appartient à une époque.
Oui, mais il y en a aujourd'hui. Mais bon, il faut être adepte.
Pourquoi je te dis ça, que si je regarde ce numéro et ce dossier, on a l'impression que ce sont des gens qui veulent sortir de ce qu'a été le surréalisme.
Mais le surréalisme a pratiqué le rébus.
Qui veulent en sortir, voilà.
Ah ben ils en sortent.
Ça a été fait, et eux-mêmes veulent, comme les lettristes, comme ce qu'a tenté de faire le Debord. Oui. Debord, si tu sais qu'au départ, dans les années 50, Debord, il se prend un peu pour Breton, il traite Breton de flic, etc. Oui. Petite parenthèse aussi, donc il y a Isidore Isou et Guy Debord qui partent ensemble. Et l'humour veut que Debord va virer Isou parce que Isou se prenait, selon lui, pour une vedette. Quand tu sais le destin de Debord après, ça fait doucement rigoler, toi.
Mais pour être juste avec les surréalistes, le rébus est un exercice en soi fermé. Il y a des dessins et il y a un sens. Le rébus surréaliste, quand il existe, n'est pas fermé. C'est ouvert, c'est un piège à sens qui dérive vers l'inconscient, vers la littérature, vers les jeux de mots, vers les calembours, mais tout ça dans l'introspection des surréalistes, c'est-à-dire de l'inconscient, de soi-même, de la vie, quoi. Mm-hmm. Et donc on ne peut pas dire que c'est dans la pratique surréaliste que ce soit un exercice fermé avec une solution au bout, pas du tout. Si vous regardez les deux derniers rébus de Breton quand même, qui arrivent assez tardivement, quelques semaines avant sa mort, bon, certes, c'est sous forme de rébus, mais quand vous le lisez, vous le verrez, c'est vraiment une échappée belle vers ailleurs. C'est pas le cas du rébus qui ferme le sens.
C'est bien. Bravo.
Je sais pas.
Non, mais c'est... Tu veux intervenir, toi ?
Non.
Ouais. Tu aimes les rébus, toi ?
Oui, je pensais, moi, faire un sujet sur les rébus, justement.
Oui, mais il y a des choses intéressantes.
Hein. Et mais bon, je trouve que c'est très poétique.
Oui, surtout quand on dévie, qu'on ne reste pas au sens strict de la méthode.
Oui, je ne sais pas, moi je m'attache beaucoup au dessin.
Ah ben ça...
Les dessins me font rêver, les dessins des rébus dans les vieux journaux du 19e siècle.
Bien sûr, surtout.
Sont excessivement poétiques, je trouve.
Et donc, il y a une source à la fin du 19e avec les hydropathes, école-là.
Et donc, tous les cailloux bourdeux, c'est ça
qui... et évidemment. Et puis surtout, et les suralistes ont puisé là-dedans, les rêves illustrés de Granville,
oui,
qui pratiquaient beaucoup ces choses. Mmh. Et c'est vraiment issu de ça. L'Autréamont par-dessus, les jeux de langage, les cadavres exquis, tout ce que vous voulez, tout ça fait une espèce de pratique qui est quand même, qui nous emmène ailleurs qu'au strict sens des choses.
Charles, toi qui as fréquenté un peu l'université, à une époque, dans les années, je suppose, 70, 80, 90, etc., t'as pas l'impression que ce qu'on a appelé le structuralisme, avec le signifiant, avec le signifié, a complètement bétonné le langage.
Le structuralisme, alors bon, on passe du rébus et de la pratique du rébus au suralisme.
Le structuralisme.
J'ai compris, le structuralisme. Voilà. Le structuralisme, bon, c'est bétonner le langage. Eh bien, je crois pas. Parce que un des... Le structuralisme est entièrement basé sur la linguistique, et la linguistique dite structurale, donc au départ c'est Saussure, et puis après ça va être l'école de Prague, et l'école de Moscou, puis l'école de Prague, qui va faire vraiment ce qu'on peut aujourd'hui affirmer être des découvertes majeures sur le langage. Et la figure de Roman Jakobson est absolument essentielle. Il envisageait tous ces problèmes de linguistique en rapport avec l'invention poétique. Et pour lui, la poésie est inscrite dans le langage. Et il a des articles majeurs sur l'importance de la poésie, qui est bien entendu, selon l'approche de Jakobson, était à laisser sur la réserve énormément de linguistes de stricte obédience, lesquels voulaient faire simplement de la description linguistique et essayer d'être dans une approche extrêmement, on va dire, scientifique, avec tout ce que ce mot peut comporter d'assez... d'emphase stupide, quoi. Hein. Jakobson, qui était pourtant un grand scientifique, a toujours mis cette exigence de ne pas dévier, de ne pas s'écarter, et pensant que c'est la langue qui était en mesure de révéler des dimensions qu'une approche systématique ne pouvait pas avoir. Et donc le structuralisme prend sa source là-dedans.
Donc tu veux dire que les grands du structuralisme, il n'y a aucun problème? Oui, il y a un problème, c'était le côté abattardissement de la chose.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où après ça se fonde comme une école, et donc des pratiques avec des procédures très reconduites de manière mécanique, là ça se vide complètement, voilà, tout intérêt. Mais le structuralisme tel par exemple il a été pratiqué par Lévi-Strauss, autant que de l'anthropologie structurale, c'est un immense écrivain. D'accord. C'est une littérature magnifique, il faut lire les mythologiques pour s'en rendre.
Pas le contraire. Non, mais là,
le problème, c'est toujours les suiveurs.
C'est les suiveurs, voilà.
Les épigones.
Ben oui, parce que... pourquoi? Parce qu'il y a... on rentre dans l'imitation, on va imiter.
Donc les épigones du surréalisme, moi j'en connais pas mal. Hein. Oui, voilà. On va écouter un peu de musique, et puis on va encore écouter un tout petit peu, tu veux bien, Triboulet, et puis on va conclure avec tout ça en disant.
Hein,
non, mais il va faire un peu de lecture, etc. On a tout le temps, hein. Je sais que tu es...
Esta day sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Estate, il sole che ogni giorno si scaldava, che splendidi e tramonti dipingeva. Adesso brucia solo furore. Tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose, e forse un po' di pace tornerà. Estate, che hai dato il tuo profumo ad ogni fiore. L'estate che ha creato il nostro amore, per farmi poi morire.
Ah bah écoutez, vous voulez vous taire un peu au 01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste. Paris ou le rideau levé? Alors, ben, Charles est très content parce qu'il vient de découvrir que Pierre-Jean-Baptiste Nougaret, il est rochelais, c'est ça?
Il est de la Rochelle.
Il ne connaissait pas du tout.
Ben non, non, non. Enfin, c'est vrai qu'il est parti apparemment à 24 ans pour aller à Paris et s'investir dans la Révolution, et que là... Il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère, si l'on peut dire.
Donc il est écrivain. Ça a été l'ami de Restif au départ. Après, ils se sont engueulés. Et puis voilà. Les Parisiens mangeurs de chair humaine.
Oui, c'est bien ça. On lisait dans plusieurs journaux royalistes en 1789 que les habitants de Paris faisait retirer les cadavres des aristocrates qu'ils avaient égorgés, que le sang coulait dans les rues comme l'eau dans les ruisseaux, et que les enfants jouaient à la boule avec des têtes de mort. Les jeunes gens, selon l'un de ces journaux, portaient à Paris en 1790 et 91 des pantalons faits de peau humaine. Les fossoyeurs, ajoutaient-ils, écorchent secrètement les cadavres qu'ils ont exhumés et en vendent ensuite la peau pour qu'elle soit préparée. Que de gens seraient fort embarrassés si l'usage établi dans une contrée des Indes était maintenant en vigueur en France. À Siam, selon Forbin, on fend la bouche jusqu'aux oreilles à ceux qui ne parlent pas assez pour ce qui intéresse le bien du gouvernement, mais on la coud aussi à ceux qui en parlent trop ou mal à propos.
Une jeune et jolie personne écrivit à l'Assemblée nationale le 5 octobre 1789 la lettre suivante. « Messeigneurs, j'ai un cœur pour aimer. J'ai amassé quelque chose en aimant. J'en fais entre vos mains hommage à la patrie. Puisse mon exemple être imité par mes compagnes de Touran. » Une femme moins estimable que la jeune personne dont je viens de parler et qui occupait une boutique fit l'hommage de tous ses bijoux sur l'autel de la patrie. Or, les boucles d'oreilles qu'elle avait réservées pour un singulier usage, elle ne les mettrait jamais que lorsque son mari dînait en ville ou allait à la campagne. Ce signal avertissait l'amant qu'elle favorisait en secret. Ça, c'est beau, non? Hein? Ça, c'est superbe, ça. Bon, alors il y a plein de choses. On n'a pas eu le temps de parler. Je vais te faire une confidence. La couverture est très belle. Où tu as eu la couverture
C'est le graveur que j'ai mis là.
C'est ça.
C'est le même graveur. C'est un graveur italien. Il s'appelle Vitelli. Ouais. Et c'est un recueil de gravures, les cris de Bologne. C'est les métiers. En fait, c'est les métiers de Bologne. Mais c'est un recueil qui est moins connu que ceux dont on a l'habitude. Mmh. Et qui est très beau, je trouve.
Il y a des très belles peintures d'Ève Mourquette.
Oui. Alors, Ève Mourquette, c'est
qu'on a
peintre et photographe contemporain.
Alors, c'est très très bizarre la littérature. La littérature, le texte, c'est très très bizarre. Petite anecdote, il existe près du Père Lachaise une maison à livres. Tu sais, les maisons où on met les livres. Et un jour, je vais dans ce parc et je vois un homme. D'une neutralité, un pépère qui était là, et je vois entre les mains, il avait une revue que je connaissais, et puis c'était Empreinte. Alors je lui demande, c'est que vous avez lu Empreinte? Il me dit, oh ben, voulez-je vous le rendre? Qui me dit, je lui dis, mais non, ben lisez-le. Et il y avait je sais pas comment c'était arrivé, il y avait 10 numéros d'Empreinte dans la petite cabane. Donc ça veut dire qu'il y a une circulation des textes, une circulation des revues. Et hier, il y avait monsieur Abdelkader El Janabi qui est venu, qui m'a montré. Lui, c'est un expert. Il avait même réussi à trouver sur la petite collection Gallimard un texte de Louis-René Desforêts.
Oui.
Donc voilà. Et c'est drôle parce que qu'est-ce que c'est que l'écriture? On en a déjà parlé ensemble. Qu'est-ce que c'est que l'écriture? Par exemple, Jean de Mélier, je n'y comprends rien. Non, mais tu vois, je n'y comprends rien. C'est-à-dire, on avait fait une émission, je te l'avais déjà dit. Je ne peux pas dire que c'est bon ou c'est mauvais. Je ne vois absolument pas l'intérêt. Tu vois, c'est drôle.
Non, mais c'est... À chacun ses parties prises.
Oui, à chacun ses...
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de résonance. On parlait de résonance.
Oui,
il
n'y
a pas
sûr.
De résonance.
À ce propos, on pourrait parler aussi du poème de Jehan van Langenhoven qui se trouve à la page 12 et 13.
Je ne parle jamais de moi.
C'est toi. C'est
moi.
Mais parce que le titre.
Par contre, on peut finir.
Pas ta vie, elle serait celle d'un autre. Alors je savais.
C'est vrai. Ah bah ça, c'est bien. Oui, ça, c'est bien.
C'était pas toi.
C'est pas de moi. C'est pas de moi. C'est un numéro 7 d'Intoto, fini par un poète, Odilon Jean Perrier.
Ah oui.
C'est pas quelqu'un qu'on essaie avant, non?
Un peu, pas spécialement de nom. Moi, que d'ailleurs, quand on m'en a parlé, inculte que je suis, je n'ai pensé qu'à Odilon Redon, ci-devant Bordelais, donc de chez nous. Et il me dit, je ne connais pas ce monsieur Perrier. Et là, il faut dire que c'est un collaborateur de la revue qui nous l'a amené, qui nous a aidé à le connaître. Et tout de suite, on a percuté sur le piéton de Bruxelles, si on peut dire comme ça, et ses poèmes sur la découverte de Bruxelles à pied, et donc le citadin, la promenade des anges, ce genre de choses.
C'est quelle époque?
C'est début du siècle. Ça a été
1925.
Un poète météore. Il est mort très très vite. D'une maladie.
Rhumatisme, quelque chose.
Mais très très jeune, il est mort l'année de son mariage, il devait avoir 26 ans.
Oh,
et donc, c'est un poète qui a été publié, certes, il y a eu des publications à compte d'auteur, très anciennement chez Gallimard, ce genre de choses, mais personne ne connaît. Et donc, ça mérite.
Oui, ça m'intéresse, je vais aller voir.
Ben oui.
Mais il fait que de la poésie ou il fait aussi un peu de prose?
Il a fait un roman. Il fait, oui, c'est de la poésie, du roman. Et il écrit des calligrammes. Il a fait aussi, vous le verrez dans le numéro, un jeu de cartes.
Ah.
Il a travaillé avec Paul Nouget. C'était, ben, évidemment.
Belge,
c'est un bel exemple et une un poète à découvrir.
C'est merveilleux quand on fait des découvertes.
Ça justifie aussi les revues.
Ah oui.
Parce que c'est vrai, dans toi, c'est quasiment rituel. Tu as toujours quelqu'un que tu vas chercher.
Oui, oui.
Guy Chambellan avait fait pareil. Il publiait des poètes, trois poètes contemporains, et il allait chercher quelqu'un, il allait chercher Dervilly, Dervilly, oui. Et des choses comme ça, qu'il nommait les ancêtres prodigieux. Et on découvre des gens comme ça. C'est pas que leur texte soit mauvais ou etc.
Non, non, c'est le plaisir de la découverte.
C'est le plaisir.
Et c'est pas bon, ça. Et puis, bon, les gens qui aiment la marche, il y en a tant qui marchent et qui poétisent, qui réfléchissent, qui écrivent. Hein, Nietzsche était de ceux-là, mais il y a beaucoup de poètes, il y a beaucoup de marcheurs, créateurs, dans les gens qu'on connaît, dans les gens qui ont vécu avant nous. Et qu'on a plaisir à donner à lire.
Ceux qui sont oubliés, il y a comme une injustice aussi. Il y a un sentiment d'injustice.
Évidemment.
Et c'est ça qui est agréable, c'est de rétablir un peu.
Bon, on vous voit, mesdames, au marché de la poésie, c'est ça ?
On doit y être.
Alors,
normalement.
Vous allez marcher jusque-là. Donc c'est du mercredi 18 au dimanche 22. Hein, oui, chacun à son stand.
Alors, 103
pour Empreinte
et 605 avec les éditions Vincent Rougier Ficelle pour Intoto.
Voilà, et moi je serai au stand, je partage le stand avec la Lucarne des Écrivains, la librairie La Lucarne des Écrivains.
Je ne fais trop vous conseiller, Unica Zorn, Printemps sombre, voilà, c'est la femme de belle-mère.
Sombre printemps. Hein,
sombre. Ouais. Printemps. Alors, très bien.
Moi, j'ai lu Sombre Printemps.
Printemps sombre, mais dans la préface, ils expliquent pourquoi il y a inversion.
Ah, non, d'accord. Non,
tu vois, il faut te tenir au courant. Vraiment, il ne faut pas qu'on ne représente pas avec ça. Hein.
Je ne l'ai juste pas de temps.
Joseph Nosarzewski, aux éditions de Douro, dirigé par Jacques Coda, a fait un très bon Hans Bellmer. Et puis je réitère pour la Palestine et la poésie, vous tapez Les Hommes sans épaules, Christophe Dauphin, il fait un très très bon travail. Il faudra qu'on consacre un jour une émission. Et donc, dont un texte de Jumana Mustapha Griff, c'est une jordano-palestinienne, c'est très vivant. Voilà. Sur Radio Libertà 89.4, Nina Huerta, c'était un plaisir.
Tout le plaisir.
J'espère que ça
n'a
pas été trop pagaille, parce que là, c'était deux revues en même temps.
C'est
pour se trouver.
Quand on parlait de résonance, Empreinte résonne avec Intoto, et surtout, Intoto résonne avec Empreinte.
Très bien.
Très voulu, c'était un plaisir, et merci. Voilà. Vous savez qu'il y a un rituel ici, on remercie toujours Monique avant de partir.
Oui.
Hein.
Merci Monique.
Personne n'a jamais oublié. Merci Monique.
Merci Monique.
Voilà.
Si elle veut venir à la Cano, on connaît des points, des points de référence.
Elle est complètement nue.
Elle est complètement.
Mais pour le bédi, ma bobo mène à yoton. Mais na rekne to yetse yem mame wanganya wewe dianze angwa bane we piri mukase we mukasa remboga
du mal de chien pour certains qui perdent leur sang. D'autres vont bouffer de croissants et feuilleter leur quotidien. D'autres font marcher des sirènes simplement pour sauver quelqu'un. Par un matin de mal de chien, simplement quelqu'un qu'on emmène. Je pensais pas que j'aimais mon papa au point d'écrire une chanson tendre pour lui dire que ça peut attendre, qu'il peut partir une autre fois. Je pensais pas que j'aimais mon papa au point d'aimer les ambulances, les infirmières et les silences de nos visites faites à mi-voix. Dans les couloirs de l'hôpital, un ami, fils d'un autre père, d'un autre monsieur qu'on opère, dont le sort est aussi brutal. On frôle un peu la tragédie, on se dit quelques mots banals. Dans les couloirs de l'hôpital, on est là pour croire à la vie. Je pensais pas que j'aimais mon papa au point d'écrire une chanson tendre pour lui dire que ça peut attendre, qu'il peut partir une autre fois. Je pensais pas que j'aimais mon papa au point d'aimer les ambulances, les infirmières et les silences de nos visites faites à mi-voix. Je venais pour le voir guérir à peu près deux fois par semaine. J'avais la joie, d'autres la peine d'être là plutôt pour mourir ou pour voir mourir un des leurs. Dans ces couloirs sentant la cire, je venais pour le voir guérir et croiser d'autres gens en pleurs. Je pensais pas que j'aimais mon papa au point d'écrire une chanson tendre pour lui dire que ça peut attendre, qu'il peut partir une autre fois. Je pensais pas que j'aimais mon papa au point d'aimer les ambulances, les infirmières et les silences de nos visites faites à mi-voix. Je pensais pas que j'aimais mon papa au point d'écrire une chanson tendre pour lui dire que ça peut attendre, qu'il peut mourir une autre fois. Je pensais pas que j'aimais mon papa au point d'aimer les ambulances, les infirmières et les silences de nos visites faites à mi-voix.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Je ne crois plus qu'en un petit brin d'herbe oublié sur la voie ferrée. Je ne crois plus qu'en un petit brin d'herbe ressuscité au milieu des pavés. Toi, tu l'arraches avec tes bulldozers, roi de l'or, esclave de l'or. Toi, tu l'enterres avec tes quatre hivers, fils de la mort et père de la mort. Moi, je te hais depuis le fond des âges, mais quand même dans mon désespoir. Je t'aimerai toujours bien davantage que toi tu n'aimes sous ton parasol noir. Je ne crois plus qu'en un petit brin d'herbe oublié.
Il a tout vendu, tout donné dans la maison abandonnée. sait pas raisonner. Y'a plus qu'une ampoule allumée, y'a plus qu'une ampoule, et un masque sur le mur qui fait froid dans le dos, qui fait froid dans le dos, et un masque sur le mur qui dit jamais un mot, qui dit jamais un mot, non, qui dit jamais un mot, qui dit jamais un mot. Il a tout vendu, tout donné. L'a juste gardé que son collier qui vient des Indes. La dernière page de son cahier. Tu peux pas lire, tout est rayé. Parti là-bas, il savait pas qu'on en revient pas, on n'en revient pas. Il a tout donné. Y'a qu'une photo qui reste pendue avec des femmes, des enfants nus. C'est là-bas qu'ils se sont connus, c'est là-bas qu'ils se sont. Et y'a le masque sur le mur qui fait froid dans le dos, qui fait froid dans le dos. Et y'a le masque sur le mur qui dit jamais un mot, qui dit jamais un mot, qui dira jamais un mot, qui dira jamais un mot. Quand il est parti là-bas, il savait pas qu'on en revient pas, on n'en revient pas.
Il voyage en solitaire et nul ne l'oblige à se taire. Il chante la terre, il chante la terre. Et c'est une vie sans mystère qui se passe de commentaires pendant des journées entières. Il chante la terre, mais il est seul. Un jour l'amour l'a quitté, s'en est allé faire un tour l'autre côté d'une ville où il n'y avait pas de place pour se garer. Il voyage en solitaire et nul ne l'oblige à se taire. Il sait ce qu'il a à faire. Il chante la terre. Il reste le seul volontaire.